Bonsoir Claire Servageant.
Bonsoir et merci Charline, on vous souhaite un bon week-end. C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France avec le sociologue David Le Breton, dont le dernier livre est consacré au sourire. À 19h, le journal de Corinne Audouin. À 19h20, au téléphone sonne, quelle prévention pour les risques majeurs, qu'ils soient technologiques, naturels, terroristes ou militaires, quelle implication pour les citoyens que nous sommes. N'hésitez pas à appeler le 01 45 24 7000. Le standard est déjà ouvert, il attend vos appels. Mais pour commencer ce 18-20, le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, une évacuation très attendue, celle de la ville martyre de Marioupol en Ukraine, retardée à plusieurs reprises, mais désormais semble-t-il sécurisée par le CICR. Des bus seraient actuellement en route pour faire sortir plusieurs centaines de personnes. Nous serons sur place dans un instant. L'actualité, c'est aussi les images et les sons d'une nuit de terreur. Diffusion cet après-midi des enregistrements sonores et des photographies de l'attentat du Bataclan, audience glaçante, compte rendu à suivre. À suivre aussi la mise en examen du policier accusé d'avoir tiré sur un habitant de Sevran samedi dernier. Le dernier meeting de Viktor Orban, grand favori des législatives de dimanche en Hongrie. Et puis une pièce de Robert Badinter pour terminer sur les condamnés à mort du régime de Vichy.
France Inter. Ils sont des dizaines de milliers à attendre la fin de leur calvaire.
160 000 habitants seraient toujours pris au piège de l'enfer de Marioupol, privés d'eau, d'électricité, bombardés depuis des semaines. Mais depuis ce soir, quelques 2000 personnes seraient actuellement en route pour Zaporijjzhia, à 226 km de Marioupol. Une évacuation humanitaire, plusieurs fois repoussée, mais finalement en cours, selon nos reporters sur place, avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. Des dizaines de bus donc en route pour un centre de réfugiés à Zaporijjzhia où se trouvent actuellement nos envoyés spéciaux Marie-Pierre Véraud et Arthur Gerbeau.
Là, on est dans ce centre de Zaporijjzhia, cet ancien centre commercial qui a été transformé en centre d'accueil pour les réfugiés. C'est ici qu'ils arrivent, qu'ils sont enregistrés, qu'ils reçoivent un peu de nourriture. Il y a des enfants qui peuvent avoir quelques jouets, un panneau avec des annonces de personnes disparues ou des propositions de transport, des enfants, des familles. Une fois qu'ils ont été enregistrés dans ce centre, qu'ils ont parfois eu aussi un peu une aide psychologique, eh bien, on les convoie dans des bus, dans différents endroits où ils peuvent passer la nuit. Sur un banc, une dame avec deux enfants, deux fillettes.
Il ne reste rien de mon village, nous dit-elle. Ils ont tout détruit. Vous n'imaginez pas, c'est insupportable. Des morts, des cadavres partout, les uns sur les autres. Et les Russes, ils ont mis leurs blindés dans nos jardins. C'est à cheval que cette dame a pu s'échapper. Son fils est venu la chercher, puis elle a pu trouver une voiture. Des récits de personnes ainsi bouleversées. Marc Forger, de Médecins sans frontières, pense en recueillir beaucoup.
On peut s'attendre à avoir des gens en syndrome post-traumatique, c'est clair. Des gens qui ont été paralysés par la peur, qui ont tout perdu, des gens secoués. Et puis c'est aussi des gens qui souvent vont s'arrêter ici à Zaporijjzhia, mais qui vont continuer leur migration. Ils ont vraiment besoin d'un moment de répit. Ils sont encore un peu en mode urgence.
L'urgence, sans doute, encore pour longtemps. Zaporijjzhia, Arthur Gerbeau, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens ont repris aujourd'hui par visioconférence, et cela malgré une frappe ce matin contre un dépôt de carburant dans la région de Belgorod, mené en territoire russe par des hélicoptères ukrainiens volant à basse altitude. Les autorités ukrainiennes ne confirment pas. Les autorités ukrainiennes qui sont aussi sommées de faire le ménage au sein de leur armée. L'ONG Human Rights Watch s'inquiète en effet de possibles crimes de guerre commis par des Ukrainiens. Depuis plusieurs jours, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux où l'on voit des prisonniers russes près de Kharkiv se faire tirer dans les jambes. Virginie Pironon.
La vidéo date du 27 mars. Elle aurait été tournée dans la région de Kharkiv, dans un village repris en début de semaine par les forces ukrainiennes. Sur les images, on peut y voir des hommes en treillis, à terre. L'un d'entre eux est agonisant, il porte un sac sur la tête. Un homme le lui retire, lui demande en russe d'où il vient. Le combattant, visage tuméfié, est dans l'incapacité de lui répondre. Puis trois hommes en treillis sont filmés, roulant à terre, mains attachées dans le dos. D'autres hommes en armes leur tirent dans les jambes. Même si la vidéo n'a pas encore été formellement identifiée, il pourrait s'agir, selon Human Rights Watch, de combattants ukrainiens s'en prenant à des prisonniers russes. Hugh Williamson est porte-parole de l'organisation.
Si ce qu'on voit se révèle être effectivement des prisonniers de guerre sur qui on tire dans les jambes, on pourra parler de crimes de guerre. Mais les investigations doivent être poursuivis avant d'arriver à cette conclusion.
C'est la seconde fois depuis le mois de mars que Human Rights Watch s'alarme du traitement de soldats russes en Ukraine. Concernant cette vidéo, l'organisation demande aux autorités ukrainiennes d'ouvrir une enquête.
Virginie Pironon, sur le front économique, pas de guerre du gaz en vue. Les menaces de Vladimir Poutine de faire payer les livraisons de gaz aux Européens en roubles ont fini par un simple aménagement technique. Les Européens pourront continuer à payer en euros. Pas de rupture de livraison à l'horizon. Enfin, le Kremlin se dit prêt à expliquer la guerre à Gérard Depardieu, qui, selon Moscou, ne comprend pas la situation en Ukraine. L'acteur détenteur d'un passeport russe, grand défenseur de Poutine, depuis longtemps, a fini hier par dénoncer les dérives folles du maître du Kremlin.
Des rafales de Kalachnikov qui résonnent dans la grande salle du Palais de Justice de Paris.
La cour d'assises spéciale a en effet diffusé aujourd'hui quelques extraits audio, mais aussi des photographies de l'attentat du Bataclan le soir du 13 novembre 2015 pour montrer, faire entendre la scène de crime. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Sébastien.
250 victimes et proches des victimes sont venus pour assister à cette audience éprouvante.
Oui, la salle d'audience était comble, sur les bancs des dizaines et des dizaines de survivants renserrés et quelques familles endeuillées, le visage grave. La cour a commencé par diffuser quelques minutes d'une bande audio extraite d'un dictaphone tombé de la poche d'un spectateur. On a d'abord entendu le moment où les terroristes surgissent en plein concert et tirent, des tirs et encore des tirs de Kalachnikov, des tirs effroyables ont résonné au milieu de cris de panique de la foule du Bataclan ce soir-là. Et puis, sur la bande son, on a perçu des gémissements et des râles. Ensuite, la cour a projeté des images de l'horreur, des corps allongés dans la fosse, parfois enchevêtrés, des traînées de sang par terre. Aucun corps n'était identifiable, mais la vue du massacre était éprouvante. Sur un banc de victimes, dans la salle, Marie, une très jeune fille survivante du Bataclan.
C'est la première fois que je voyais ces photos, mais c'est pas la première fois que je voyais cette scène. Je pense que je suis, d'un point de vue très psychologique, je pense que je suis dissociée, donc un peu encore dans... la reviviscence de ce qui s'est passé. Je repense aussi beaucoup à la perte de mon ami et à son absence aujourd'hui sur les bancs. Ces sons et ces images me rappellent que lui, il n'a pas survécu à tout ça.
Après ces images très dures et le son glaçant des tirs, l'audience a été suspendue un long moment pour que les victimes, parfois en larmes, puissent parler à des psychologues et une cellule psy sera ouverte tout le week-end.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice de Paris avec Yves Lehorse, un policier bientôt mis en examen dans l'affaire de Sevran, cette ville de Seine-Saint-Denis qui a été le théâtre de plusieurs nuits d'émeute après la mort d'un de ses habitants tué samedi dernier par un tir policier. Le procureur de Bobigny a expliqué que l'agent se sentait en état de légitime défense. Il a demandé Emmanuel Leclerc sa mise en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort.
Oui, et le procureur Éric Maté a rappelé qu'il s'agissait d'une qualification criminelle passible de 20 ans de prison. Mais que pour l'instant, le policier de la brigade anticriminalité d'Aulnay-sous-Bois est évidemment considéré comme présumé innocent, que d'autres investigations seront nécessaires dans les semaines, les mois qui viennent pour étayer les éléments à charge contre le policier ou au contraire les infirmer. Éric Maté a expliqué que l'agent avait déclaré dans un premier temps qu'il avait été déstabilisé par le démarrage du conducteur de la camionnette, ce qui avait déclenché son tir. Puis, lors d'une deuxième audition, il a expliqué que finalement, il avait ouvert le feu en état, vous l'avez dit, de légitime défense. Il avait estimé qu'il y avait danger pour lui et les piétons autour, qu'il avait respecté le code de sécurité intérieure dans le cadre d'un délit de fuite. Le procureur a requis son placement sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction de pratiquer le métier de policier et toute présence dans le département de la Seine-Saint-Denis, sauf pour ses convocations judiciaires.
Emmanuel Leclerc, il se dit certain de pouvoir accéder au second tour. Jean-Luc Mélenchon prépare la dernière ligne droite de la campagne des Insoumis. Dernier grand meeting en extérieur ce week-end et un nouveau tract pour faire de lui la troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Antoine Gignot.
L'idée, c'est d'utiliser l'effet Dracula, explique l'équipe de campagne. Allumer la lumière pour éclairer les propositions du Rassemblement National et se poser en alternative, précise Alexis Corbière, député La France Insoumise.
Madame Le Pen, c'est du Macron plus dur. Elle n'est pas pour augmenter le SMIC, SMIC et elle n'est pas pour bloquer les prix. La retraite, les travailleurs et travailleuses, les habitants de notre pays, des gens modestes n'y gagneront rien. C'est sur ces choses concrètes que j'invite chacun à faire un choix. Nous nous battons avec mes amis pour qu'il y ait la plus forte mobilisation.
La mobilisation, voilà l'enjeu pour Manuel Bompard, directeur de campagne. L'essentiel, c'est d'arriver à toucher les Français qui ne votent pas ou qui ne votent plus.
Les instituts de sondage estiment que le taux de participation pourrait être plus faible que ce qu'il a été en 2017. Donc le premier enjeu, clairement, pour nous, c'est de convaincre, en particulier la jeunesse, en particulier les catégories populaires, de l'opportunité qu'ils ont en allant se déplacer et en allant voter. Le deuxième objectif, clairement, c'est de convaincre aussi les électrices et les électeurs de gauche qu'ils ont une opportunité de battre l'extrême droite dès le premier tour.
Une condition tout de même, apparaître en rassembleur de la gauche, c'est l'objectif aussi du dernier grand meeting à Toulouse, une ville qui, en 2017, avait déjà largement voté pour Jean-Luc Mélenchon.
Mélenchon à Toulouse dimanche, donc Nicolas Aignan, Dupont-Aignan, lui, y était aujourd'hui le candidat de Debout la France, qui a notamment rencontré des motards et s'est prononcé pour la suppression définitive du contrôle technique pour les deux roues et des zones à faible émission qui interdisent aux véhicules les plus polluants de circuler. Et puis au chapitre circulation encore, ces files d'attente devant les stations essence aujourd'hui, les Français qui se sont précipités pour faire le plein avec la mise en place de la ristourne gouvernementale de 18 centimes. Il a été l'un des pires cauchemars de l'Europe depuis 12 ans, mais il reste très populaire dans son pays. Viktor Orban joue son avenir ce dimanche, élection législative en Hongrie. Les sondages le donnent favori, mais l'opposition, pour une fois, est unie. Dernier meeting de campagne ce soir de ce leader ultra-conservateur. Louise Baudet, vous y étiez. Bonsoir. Meeting à une heure de Budapest, en province, là où bat le cœur de l'électorat d'Orban.
Effectivement, Sébastien, ce n'est pas dans n'importe quelle ville que Viktor Orban est venu clore sa campagne. Székesfehérvár, c'est un fief électoral du Fidesz, mais c'est aussi l'endroit où l'on couronnait les rois au Moyen-Âge. La grandeur de la Hongrie, la fierté nationale, célébrée devant un immense drapeau tendu sur la façade de la mairie. Viktor Orban fait vibrer la fibre patriotique avant de brocarder ses habituelles bêtes noires, Bruxelles, le milliardaire George Soros, la propagande LGBT. Pas une fois, il ne prononce le nom de son adversaire, Peter Martin. Un conservateur moins facile à attaquer que la gauche. En revanche, il étrille l'opposition qui, dit-il, veut jeter la Hongrie dans la guerre en Ukraine quand lui défend la paix et la sécurité. L'approvisionnement en gaz et en pétrole russe aussi, car les Hongrois ne doivent pas payer le prix de cette guerre, dit-il encore, avant de rappeler tout ce qu'il a fait pour le pouvoir d'achat, blocage des notes d'électricité et de gaz, et plus récemment du prix de l'essence et de denrées alimentaires de base, 13e mois pour les retraités, aide aux familles, des thèmes porteurs dans son électorat. Il y avait d'ailleurs foule tout à l'heure sur la place, des retraités, des familles, cette classe moyenne de province qui constitue le cœur de son électorat et ira voter quoi qu'il arrive, Orban Viktor, comme on dit ici, dimanche prochain.
Louise Baudet en direct de Hongrie, et puis c'est l'événement mondial le plus suivi de la soirée, tirage au sort pour la Coupe du Monde de foot au Qatar en novembre prochain. La cérémonie a commencé il y a un quart d'heure, mais on attend encore de connaître les adversaires du 11 tricolore pour le premier tour.
On termine comme chaque semaine avec le choix du service culture.
Qui vous emmène ce soir dans les coulisses du festival Parole Citoyenne, un festival de théâtre autour des grands débats de société. Et dimanche, au Théâtre Antoine, sera créé en première mondiale à Paris, Cellule 107, la pièce de Robert Badinter qui a imaginé l'ultime dialogue entre, dans la cellule, des condamnés à mort entre Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, et René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy. La pièce est mise en scène par Denis Podalydès. Stéphane Capron a assisté aux répétitions.
Il y a un carré noir qui est la cellule. Je placerai là, pas assis simplement.
Denis Podalydès recrée l'exiguïté d'une cellule de prison. Nous sommes en 45, à Fresnes, la veille de l'exécution de Laval. Le directeur l'a autorisé à voir René Bousquet. À travers ce que l'on sait de l'histoire et de leur procès, Robert Badinter reconstitue des dialogues en forme de plaidoirie. C'est ce qui a séduit Denis Podalydès.
J'étais très très touché par cette histoire que lui, grand avocat, se passionne autant pour le théâtre jusqu'à écrire de belles pièces qui sont très, celle-ci est assez onirique, tout à fait inventée, parce qu'on sait que Bousquet a rendu visite à Pierre Laval dans sa cellule, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. C'est Badinter qui l'écrit. Pour moi, ça parle autant de Badinter que cette attention aux condamnés.
Denis Podalydès tient le rôle de Laval et Benjamin Laverne, celui de Bousquet.
Ils ne vous ont pas pardonné d'avoir dit en 1942, je souhaite la victoire
Attendez,
de l'Allemagne.
On a oublié la suite de la phrase, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. En vérité, c'est Pétain qui m'a fait changer cette phrase.
Robert Badinter introduit d'autres personnages, des fantômes, dont une petite fille qui raconte à Laval comment ses parents ont été déportés par la France de Vichy. À la dimension historique, Robert Badinter ajoute une dimension humaine qui fait de Cellule 107 une pièce totalement bouleversante.
Cellule 107 de Robert Badinter, c'est dimanche à 19h au Théâtre Antoine à Paris. Reportage à retrouver demain en longueur à 6h54 dans le 6-9 de France Inter.
Merci beaucoup pour ce journal, Sébastien Legenis. On vous souhaite un bon week-end. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
À Glagla, 19 départements en vigilance orange à la neige.
Oui, la neige va continuer de tomber toute la soirée et toute la nuit sur l'ensemble des hauteurs. Cet épisode est surtout notable puisqu'il se produit assez tardivement. Alors des épisodes neigeux ont déjà été observés en avril en 2008 ou en 2005 pour les plus récents. Mais il peut aussi neiger encore plus tard, vous le savez peut-être pas Claire. Mais le 1er mai 1945, il y avait 6 cm de neige à Paris.
C'est vrai, je me souviens pas.
Demain, on retrouvera notre perturbation entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, la Lorraine et l'Alsace. En plaine, la neige et la pluie seront mélangées, la tenue sur route sera plutôt faible. En revanche, dès les premières hauteurs, la neige sera toute seule. L'après-midi, la perturbation va quand même perdre en activité et la neige ou la pluie et neige mêlées seront plus faibles et plus localisées.
Et ce sera plus lumineux sur l'ouest.
Oui, début de journée même plutôt bien ensoleillé. Entre les frontières de la Belgique, l'Île-de-France, la Touraine, la Vendée et les Landes, l'après-midi, le ciel deviendra un peu plus changeant. Les éclaircies seront plus timides sur les régions méditerranéennes et entre les côtes de la Manche, la Bretagne et la Loire-Atlantique. Quelques averses pourront même se développer. Le risque d'averses sera plus marqué sur la Corse, qui est aussi en vigilance orange, ainsi que sur les Alpes-Maritimes, avec également des orages possibles. Le vent sera toujours soutenu de 50 à 80 km par heure en général, mais plus de 110 km par heure sur les Pyrénées et autour du Golfe du Lion. Et puis évidemment, il va aussi faire bien froid cette nuit avec le retour de fréquentes gelées. Demain après-midi, les températures maximales seront elles comprises entre 2 et 5 degrés du Grand Est à Auvergne-Rhône-Alpes, 6 à 12 degrés ailleurs, avec quand même jusqu'à 14 degrés sur la Côte d'Azur.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.